à tous, vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct est en compagnie de Luc Bénard, référent Europe de la Fédération Régionale Famille Rurale, et de Jocelyne Pinault, administratrice de la Fédération Départementale de Famille Rurale en Maine-et-Loire, pour parler du projet Desire. Bonjour.
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 Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis Luc Bénard, je suis chargé de mission Europe à la Fédération Régionale Famille Rurale des Pays de la Loire.
Bonjour, je suis Jocelyne Pinault, je suis vice-présidente de la Fédération Départementale du Maine-et-Loire depuis 19 mois, et puis je suis aussi responsable de la commission numérique de la Fédération.
Alors, on va parler maintenant de votre projet Desire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce projet ?
Le projet Desire, c'est un projet européen, un projet Erasmus+, projet de coopération. Ça s'appelle Desire, pour, en fait c'est un acronyme pour Digital Education Skills in Rural Europe, donc les compétences en éducation numérique en milieu rural, en Europe. Et c'est un projet donc, qui a pour but l'échange de pratiques et la création d'outils pédagogiques. Et ce projet a pour but de lutter contre la fracture numérique, plus particulièrement en milieu rural.
Comment est né ce projet et, même si tu viens d'y répondre, à quel besoin cherchait-il à répondre ?
Alors, le projet, il est né de la Fédération Famille Rurale du Maine-et-Loire. C'est deux de nos chargés de mission numérique, qui ne sont plus à la Fédération maintenant, qui sont Zoé Chartier et Alexandre Moisson. C'est vrai que sans eux, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. On a, dans le Maine-et-Loire et un petit peu partout en France, en fait, des points de médiation numérique qui sont des points où les gens peuvent venir faire des ateliers pour s'acculturer au numérique en zone rurale, essayer de devenir aussi autonome dans le monde du numérique. Et ces points de médiation numérique qui sont tenus par des bénévoles qui nous posent souvent des questions sur comment je peux faire ça, où est-ce que je peux trouver l'information, quels sont les outils que je peux trouver pour m'aider. Et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de monter un projet justement sur les bonnes pratiques et les outils qui peuvent exister dans le numérique et utilisés en milieu rural.
Et donc, quels sont les principaux objectifs du projet Desire ?
Alors, les principaux objectifs, le premier, c'est de contribuer à renforcer l'inclusion numérique dans la zone rurale, en identifiant et en analysant les pratiques et les outils d'apprentissage qui existent, en fait. De sélectionner, de diffuser les meilleures pratiques en éducation numérique pour soutenir les personnes, les animateurs d'adultes qui travaillent dans des zones rurales. C'est de développer, puis de tester et de publier également une boîte à outils en ligne avec aussi un guide des bonnes pratiques. Et de promouvoir la collaboration entre organisations publiques et privées afin de favoriser l'échange de stratégies éducatives numériques réussies dans les zones rurales.
Un beau programme. Alors, si vous pouviez utiliser seulement trois mots pour décrire ce projet, ça serait lesquels ?
Alors, partager, parce que c'est partager les expériences aussi bien en France qu'en Europe. Bonne pratique, alors ça fait deux mots, mais c'est bonne pratique et boîte à outils.
Et quels sont les publics visés par ce projet, les publics bénéficiaires directs peut-être ?
Alors les publics visés, c'est plus au niveau des projets de formateurs d'adultes en fait, en éducation numérique. Donc notamment ceux qui sont dans nos points de médiation numérique, mais pas que, puisqu'on espère que notre travail servira aussi dans des centres sociaux, avec France Service, pourquoi pas. Donc, vraiment, là où il y a de l'éducation au numérique en zone rurale.
D'accord. Et comment vous avez choisi vos partenaires sur ce projet ?
Alors, en fait, on a utilisé la plateforme Erasmus+, la plateforme des projets Erasmus+, qui présente les résultats de tous les projets qu'il y a pu avoir. Et c'est comme ça qu'on a recherché des projets qui concernaient déjà le numérique. Et des projets en zone rurale. Et c'est comme ça qu'on a rencontré le premier partenaire, Pixel, donc un partenaire italien à Florence. Donc on les a contactés, on leur a expliqué le projet, on a fait une petite vision ensemble. Et là, ils nous ont suggéré d'avoir un autre partenaire italien Ils nous ont proposé plusieurs partenaires avec lesquels ils travaillaient déjà. Et on a choisi Pegaso, donc, qui est l'autre partenaire italien, parce que c'est un partenaire qui avait une forte connaissance des thématiques d'inclusion et qui était présent sur toute la région de Toscane, y compris les zones rurales.
Et donc, il y avait ces deux partenaires-là italiens, mais quels sont l'ensemble du partenariat, peut-être les partenaires français aussi?
Alors, donc, en tout, on était quatre partenaires, les deux partenaires italiens et deux partenaires de famille rurale, hein, donc du même réseau, la Fédération régionale famille rurale, qui était plus sur la coordination du projet, puisque la Fédération régionale avait déjà fait des projets européens, et la Fédération départementale de Maine-et-Loire, qui, comme Jocelyne l'a expliqué, est à l'initiative du projet.
Et justement, donc, ce projet étant avec des partenaires italiens, est-ce que vous avez remarqué des manières de travailler différentes ou des spécificités liées à l'interculturalité pendant ce projet?
En fait, sur les manières de travailler, je ne trouve pas qu'il y avait de grosses différences. Par contre, il y avait des différences importantes sur le secteur de l'éducation numérique, et notamment sur les acteurs qui ont en charge l'éducation numérique. En Italie, il y a des acteurs qu'on ne retrouve pas en France, notamment l'Église, les syndicats de travailleurs. Et puis après, les financements aussi en Italie sont plus des financements régionaux, pas de l'État, contrairement à la France où il y a beaucoup de financements de l'État. Et puis, ils ont aussi beaucoup recours aux financements européens.
Comment vous vous êtes organisé pour mener à bien ce projet, donc avec les différents partenaires?
Alors déjà, pour pouvoir faire ce projet européen, il y a eu un appel à proposition. Et donc là, il y a un formulaire de candidature à remplir qui pose beaucoup de questions et qui pose notamment les questions d'organisation et qui prévoit le planning sur tout le projet. Donc déjà, on a utilisé tout ce travail préparatoire. Et on a suivi le plus possible le planning tel que prévu au départ. Et ensuite, on avait des réunions de coordination régulièrement. Tous les mois, on avait des réunions en visio avec tous les partenaires. Et on a aussi eu la chance de pouvoir se rencontrer en vrai, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour avancer. On a fait deux rencontres transnationales. Donc une d'abord en France, à Angers, et puis une deuxième en Italie, à Florence.
Et juste une petite question technique, combien de temps ça vous a pris pour répondre à cet appel à projet et combien de temps a duré le projet, enfin va durer le projet en tout?
Alors pour répondre à l'appel à projet, donc la date limite pour répondre c'était en mars. Là on a postulé en mars 2024. Et donc on a commencé bien en avance, en fin d'année 2023, déjà avec tout un travail avec la fédération régionale, la fédération départementale, pour bien s'entendre sur le projet, trouver des actions qui soient pertinentes pour la fédération départementale et en même temps qui puissent être financées par le programme Erasmus+. Et puis après, pour trouver les partenaires italiens et s'entendre avec eux aussi sur le projet. Donc on a commencé octobre-novembre 2023. On a déposé le projet donc début mars 2024 et on a eu la réponse en juillet et du coup pour un démarrage en septembre 2024, sachant que c'est un projet de 18 mois donc qui se termine en fait en février 2026.
Est-ce que vous auriez pu réaliser ce projet sans le cofinancement de l'Union européenne?
Je pense que si on l'avait réalisé, on aurait pu le réaliser, mais pas forcément au niveau européen, du coup, avec des partenaires, nos partenaires italiens. Je pense que c'est un projet qu'on aurait pu faire, mais au niveau français, simplement, pas plus large.
Et puis l'avantage aussi, c'est que ça permettait aussi d'avoir des financements pour passer du temps, pour connaître tout ce qui peut exister, notamment tout sur la première grosse activité qu'on a eue sur le recueil de pratiques d'éducation numérique en milieu rural. voilà, ça a permis de financer ce temps pour rechercher les pratiques qui pouvaient exister et rencontrer des structures qui les mettent en place. Et on n'a pas forcément facilement des financements au niveau local ou même au niveau régional ou national pour faire ce type d'activité.
Et peut-être côté négatif, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au cours de ce projet ? Vous préférez pas en parler ?
Alors, au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment, c'est un petit clin d'œil à notre président de la Fédération départementale, c'est la barrière de la langue, en fait, parce que c'est vrai que pour certains, tous les échanges se faisaient en anglais, et quand on n'a pas fait de l'anglais depuis longtemps, ça peut paraître compliqué par moment. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Ça a vraiment été un problème mineur. Je dirais que le plus gros problème, ça a été le choix sur les bonnes pratiques et sur les outils. Parce qu'il y a énormément d'outils, il y a énormément de pratiques. Et faire le tri pour dire, eh ben, on va essayer de garder ce qui nous paraît le plus diffusable, en tout cas, et le plus pertinent, c'est pas forcément évident, en fait. Donc c'était là le plus gros problème, en plus. Mais la langue n'était qu'un petit clin d'œil à notre président.
Non, mais après, on avait la chance aussi d'avoir une partenaire italienne qui parle parfaitement français. Elisabetta, donc c'est vrai que ça a aidé, et puis on prenait le temps de traduire au fur et à mesure, et voilà. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour échanger, et puis que certains parlent moins qu'ils ne l'auraient fait si les échanges avaient eu lieu directement en français.
Donc oui, vous indiquez que les échanges, la langue de travail, c'était finalement plutôt l'anglais que le français, l'italien. Et donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de la réalisation de ce projet ?
Donc c'est la bonne coopération, en fait, entre les partenaires italiens et français. Parce que c'est vrai qu'on a créé un vrai lien de travail avec ces partenaires-là. Tout le projet, on l'a vraiment mené ensemble du début à la fin. Il n'y en a pas eu un qui était plus meneur que l'autre, en fin de compte. C'était vraiment un travail coopératif.
Est-ce que, comme vous avez réalisé un recueil de bonnes pratiques en matière de médiation numérique, est-ce que vous auriez quelques exemples de pratiques qui pourraient intéresser nos auditeurs ?
Ce qu'on appelle la ruralinette, qui est en fait une camionnette itinérante qui est équipée, qui permet du coup de faire de l'éducation en numérique au plus près des habitants en allant les voir directement. C'est la ruralinette qui est présente dans l'Indre et en Aveyron.
En sachant que la ruralinette, c'est une marque déposée Famille Rurale.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples concrets de bonnes pratiques ?
Il y a tout ce qui est fait aussi par France Service, qui permet de cumuler plusieurs services publics dans un même endroit, et donc de ne pas être trop loin des habitants.
Et est-ce que ces deux initiatives avaient aussi un pendant en Italie ou pas du tout ?
Alors la ruralinette, non, en tout cas pas en Toscane, vous n'y connaissez pas d'équivalent, et France Service non plus. Déjà parce qu'il n'y a pas de dispositif national comme ça, mais même il n'y avait pas de. Ils nous ont pas parlé d'équivalent de France Service, Italie Service, en Toscane.
Ok. Et peut-être en regardant, en faisant ce tour d'horizon des bonnes pratiques, est-ce que vous avez remarqué que peut-être l'Italie ou la France étaient plus avancées sur ces thématiques ou finalement c'était à peu près au même niveau ?
En Italie, en fait, l'inclusion du numérique se fait beaucoup plus par l'éducation aux jeunes ou l'éducation aux personnes en recherche d'emploi. Alors qu'en France, en fait, l'éducation numérique se fait à tous les niveaux.
Vous avez aussi réalisé donc une boîte à outils en ligne. Comment les citoyens peuvent y accéder à ces supports ?
Alors il y a un site qui a été fait par Pixel. Et dessus, on retrouve toutes les informations sur le projet et on retrouve les deux grands livrables, donc que ce soit la boîte à outils en ligne ou le recueil de pratiques. Donc le site, pour le trouver, le mieux, c'est de taper sur un moteur de recherche Pixel et Desire et vous allez tomber directement dessus.
Et donc, suite à ce projet, quels ont été les retours des bénéficiaires ?
On a eu des bons retours. Après, on attend encore.